Je lis comme je te parle. Saison 1. Émission très spéciale sur 48 FM. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'attention que vous prêterez à ces quelques textes que nous aimerions vous lire. Histoires, romans et fables que les élèves des écoles de Lachan, Rieuteur de Randon, Saint-Amand et du Chastel ont travaillé lors des ateliers « Je lis comme je te parle » conduits par Gilles Bègue et la médiathèque des Monts de Randon. La particularité de ces textes réside dans le fait qu'ils ont tous trait, de près ou de loin, à la Lozère, racontant la Lozère et ses histoires ou rédigées par des Lozériens. Nous commencerons par un texte de François Rabelais, paru en 1548. Texte qui fut réécrit par les frères Grimm au XVIIIe siècle, puis revu et corrigé par Gilles Bègue de Saint-Amand. Le diable et le paysan.
Il y a fort longtemps, dans nos campagnes lozériennes, les diables, jeunes et vieux, avaient l'habitude, pour se divertir, de venir passer un moment parmi les hommes. Un jour, un petit diable, il ne savait encore ni lire ni écrire, s'en vint trouver, afin de le tourmenter, un pauvre paysan qui travaillait sa terre sur les monts de Randon.
« Que fais-tu donc là, paysan ?» lui demande le diablotin.
« Comme vous le voyez, je laboure mon champ. »«
Je le vois, » répondit-il. « Le problème, c'est que ce champ n'est pas à toi. Tout ce pays nous fut donné, à nous les diables. Toutefois, je n'aime pas trop travailler la terre, et j'accepte de te laisser ce champ, mais à une seule condition, c'est que nous partagions le profit équitablement. Ce champ t'appartiendra si tu me donnes, pendant 2 ans, la moitié de ce qu'il produira.
« Je veux bien, » répondit le laboureur, un peu effrayé.
Nous ferons de lots égaux. L'un sera ce qui poussera dans la terre, l'autre ce qui poussera au-dessus de la terre. Et le choix m'appartient, dit encore le diable. Je choisis donc ce qui sera au-dessus de la terre, et toi, tu auras le dessous. En attendant, travaille, paysan, travaille, c'est ton métier. Quand pourrais-je revenir pour la récolte ?
Vers la fin août, début septembre.
Bientôt arriva le temps de la cueillette. Le petit diable et sa compagnie de diablotins revinrent sur terre et se mirent à couper les feuilles. Pendant ce temps, le paysan empilait en gros tas les magnifiques raves, navets et pommes de terre. Au marché de Rietor, le paysan vendit facilement ses légumes, tandis que le diable ne récolta que des moqueries pour ses feuilles fanées.
Tu penses m'avoir trompé, mais l'an prochain, il n'en sera pas de même. Je prendrai tout ce qui sera en terre, et toi et tes fils, vous aurez le dessus. Précise-moi à nouveau, quand pourrais-je revenir pour la récolte ?
À la mi-août, si le temps s'y prête, en moisson tard, dans nos montagnes.
Alors, après avoir labouré, puis semé, après que les pluies aient fait germer les graines, le blé poussa et les épis se formèrent et mûrirent. Le diable, escorté de sa bande de petits diablotins, fut ponctuel au rendez-vous et se trouva devant un beau champ de blé. Aussitôt, le paysan se mit à moissonner et à lier de belles gerbes. Pendant que les diablotins arrachaient péniblement les racines. Le jour du marché, le paysan vendit très bien son blé et sa paille, tandis que les diables ne tirèrent pas un sou de leur tas de chaumes et de racines. Ils en furent tellement vexés qu'on ne les revit jamais plus au pays.
Le second texte que nous écouterons est un extrait de La Bête du Gévaudan. L'innocence des loups, écrite par Michel Louis et parue en 1992. Bête qui, au travers de ses agressions, donna aux Gévaudans, l'actuelle Lozère, une réputation mondiale. Plusieurs films lui furent consacrés, ainsi qu'une trentaine de livres, des expositions et même des jeux vidéo. Alors, écoutons La Bête du Gévaudan.
Nous sommes en 1764, dans le sud du Massif central. À cette époque, la France est divisée en provinces. Le Gévaudan, actuel Lozère, est une région très pauvre, où le sol ne produit guère que du seigle et du blé. La ressource principale des habitants est l'élevage et le commerce du bois. L'hiver est long et rigoureux. Les plateaux sont battus par les vents, le climat y est rude et le relief tourmenté.
Dans le courant du mois de juin de cette même année, 1764, la vie paraît assez tranquille à Langogne, petit bourg des bords de l'Allier, avec ses maisons moyenâgeuses disposées en cercle autour de l'église. Non loin de là, une femme et ses chiens gardent paisiblement un troupeau de gros bétail. Soudain, sans crier gare, surgissant de nulle part, une grande bête s'élance sur elle et tente de la terrasser. La femme se défend comme elle peut, hurle et essaie de frapper l'animal en lui enfonçant son bâton dans la gueule. Mais l'agresseur esquive les coups et revient à la charge avec fureur. Les chiens, terrorisés, ne bougent pas. La vachère est renversée par le fauve, mais elle n'a pas lâché son bâton et tente de se protéger la gorge, que menace une gueule terrifiante. Ses forces s'épuisent et elle croit vivre ses derniers instants. Par bonheur, les vaches vont faire front. Pensant certainement que leurs veaux sont menacés, elles foncent, corne basse sur la bête, l'obligent à reculer et finissent par la mettre en fuite. La jeune femme s'en tire bien, avec quelques meurtrissures sans gravité. Alors, elle rassemble son troupeau et regagne le bourg au plus vite, où elle s'empresse de raconter sa mésaventure.
Une bête m'a attaquée. Elle ressemble à un gros loup, mais ce n'en est pas un. Sa tête est plus grosse, plus allongée. Elle est rousse et porte une raie noire tout le long du dos. Elle n'a pas cherché à s'en prendre au bétail. C'est moi qu'elle voulait dévorer.
Ces propos ne sont guère pris au sérieux par la population. On ne va pas faire une histoire d'un loup un peu moins poltron que les autres. Malheureusement, dans les derniers jours de juin, Jeanne Boulet, âgée de 14 ans, sera attaquée par la bête. On retrouvera son cadavre le 30 juin. Ce ne sera que le début d'une terrible histoire qui terrorisa tout le Gévaudan pendant presque 3 années, faisant plus d'une centaine de victimes.
Après avoir résisté à des groupes de chasseurs, un régiment de dragons, au plus grand louvetier de France, il fallut attendre le 19 juin 1767 pour qu'elle tombe sous le tir précis de Jean Chastel, posté au lieu-dit la Sogne d'Auvers. Et l'on n'entendra plus jamais parler de la bête du Gévaudan.
Pour rester dans cette époque pas si lointaine, voici l'extrait du roman d'Olivier Hall, lozérien, né à Saint-Léger-de-Peyre. En 1908. Les personnages de ce roman, Le Printemps lozérien, sont tous imaginaires, mais les événements qu'ils relatent appartiennent à l'histoire.
L'intrigue commence à l'auberge du Buisson, en 1793. C'est le début de la terreur, cette période de la Révolution qui a vu la naissance de la République, la fin de la monarchie absolue et le début d'une guerre civile. Extrait du Printemps lausérien, histoire romancée de la Révolution française en Lozère.
Nous sommes à l'aube du 21 mars 1793. Il a neigé toute la nuit. Un voyageur se présente à l'auberge du Buisson. L'auberge est tenue par un certain Joseph Canteloup.
Un homme frappe à la porte. L'aubergiste l'entrouve et dévisage ce nouvel arrivant. On ne peut guère, en ces temps maudits, ouvrir qu'aux gens de connaissance. Le voyageur n'est sûrement pas du pays, mais cependant, Canteloube, l'aubergiste, s'efface vivement pour lui permettre d'entrer dans la salle commune. Dans l'immense cheminée, au fond de la pièce, des souches de faillards achèvent de se consumer. L'homme s'approche du feu, se débarrasse de sa houppelande trempée, tandis que l'aubergiste s'emploie à ranimer les flammes. À la lueur de l'âtre, le visage de cet inconnu apparaît.
Au fond de la salle, quatre hommes, que l'inconnu n'a pas vus en entrant, sont assis autour d'une table, faiblement éclairée par un quinquet à huile. Soudain, l'un d'eux se lève et, prenant un fusil qu'il dissimule sous sa cape, s'approche brusquement de ce voyageur. Immédiatement, un second réagit et, s'adressant à l'étranger, lui dit
« N'en veuillez pas à notre camarade, citoyen Brutus est plein de zèle pour le nouveau régime, dont il est un vaillant soldat et tous les visages inconnus lui paraissent suspects. »
Après quelques instants de silence, où seul le crépitement des flammes se fait entendre, l'inconnu sourit et répond.
Moi, je suis le citoyen Évrard Aristide Amédée, marchand drapier, natif de Villefort, dans les Cévennes. Une affaire de famille m'appelle à Saint-Ursise, et la nuit dernière, je me suis égaré dans les gorges de la Crueize.
L'atmosphère, quelque peu détendue, l'homme venant de justifier l'attitude de son compagnon Brutus se présente à son tour.
Moi, je m'appelle Frissiné Jean-Baptiste, du village de Cologne. J'étais autrefois marchand, moi aussi. Peut-être nous sommes-nous rencontrés sur les champs de foire, du Puy ou de Beaucaire, car votre visage ne m'est pas inconnu.
Puis il précise qu'il est dans les parages avec ses trois autres compagnons, car la présence du comte de Servières lui a été annoncée par un de ses espions. L'aubergiste sourit et dit
« Je ne pense pas qu'il puisse s'aventurer chez nous par un temps pareil. »
Montrant par la fenêtre la neige qui tombe de plus belle.
« Tu es le seul de cet avis, citoyen Canteloube, mais nous en savons plus que toi. Le fameux marquis des Salins est revenu et ce scélérat ne reste pas inactif. » Il a organisé des troupes de déserteurs et les prêtres réfractaires lui sont de précieux auxiliaires, recrutant des partisans dans toutes les paroisses du Gévaudan. Ce vaurien de marquis des Salins ne tardera pas à se manifester. Mais lui faut-il, sans doute, pour se mettre en campagne, les dernières instructions des chefs royalistes et le comte de Servières pourrait bien être le courrier qui l'attend. C'est à eux qu'il faudrait en prendre, aubergiste, si la guerre civile éclate.
Par bonheur, jamais la Lozère ne sera un champ de bataille, comme l'est devenu malheureusement le département de la Vendée, où près de 200 000 Vendéens furent massacrés.
Mais la Lozère ne se prête pas qu'aux péripéties angoissantes et lugubres.
Jean de La Fontaine, écrivain français du XVIIe siècle, un des meilleurs fabulistes qu'il n'ait jamais vécu, sut aussi critiquer la société par quelques satires qui pourraient être de notre temps. Les animaux de cette fable pourraient très bien être de notre région. Le chat, la belette et le petit lapin.
Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates, un jour qu'il était allé faire, à l'aurore, sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre.
« Dieu hospitalier, que vois-je ici paraître ?»
dit l'animal chassé du paternel logis.
« Hola, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou je vais avertir tous les rats du pays !»
La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre, qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant.
Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir quelle loi on a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi.
Jean Lapin allégua.
La coutume et l'usage, ce sont leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage ?
Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous à Raminacrobis.
C'était un chat, vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte-mite. Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre, expert sur tous les cas.
Jean Lapin, pour juge, l'agré, les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée.
Grippe Minot leur dit
« Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les uns en sont la cause. »
L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants, Grippe Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains, se rapportant au roi.
Puis, pour conclure ces quelques moments de lecture partagée, une histoire, à vrai dire, un essai, autour d'un lac. Et oui, un lac, mais pas n'importe quel lac, celui de Saint-Andéol. Lac nous conduisant sur l'Aubrac, du paganisme au christianisme. Le lac de Saint-Andéol en Aubrac.
Situé à plus de 1200 mètres d'altitude, le lac de Saint-Andéol est en plein cœur des pâturages du plateau de l'Aubrac. Dès le VIe siècle, l'historien Grégoire de Tours évoque la présence d'une église et fait allusion aux nombreuses offrandes faites au bord de ce lac, dans le cadre d'un pèlerinage annuel.
Sur le territoire des Gabales, il existait une montagne appelée Hilaire, où se trouvait un grand lac. À une certaine époque, de nombreux paysans lui faisaient des offrandes en venant y jeter des étoffes, des toisons de laine, des fourmes de fromage, des gâteaux de cire, des miches de pain et toutes sortes de choses, chacun selon ses moyens. Ils arrivaient sur leurs chariots avec boissons et nourriture, égorgeaient des animaux et festoyaient pendant 3 jours. Le 4e jour, au moment de lever le camp, il se disait qu'une énorme tempête les devançait, avec tonnerre, éclairs et pluies diluviennes mêlées de pierres, au point que peu d'entre eux pensaient pouvoir s'en sortir.
Entre les Gabales, ce peuple gaulois demeurant en Gévaudan, plus ou moins chassé et repoussé par les armées romaines, et les peuples autochtones, tout était prétexte à rendre un culte païen à ce lac, aux particularités singulières. Aucune source apparente venait alimenter cette immense pièce d'eau et aucune rivière ne permettait à l'eau de s'échapper de cet étang. Ces caractéristiques occasionnaient en hiver des grognements suspects dus au craquement de la glace de surface, poussée par on ne sait quelle force sous-marine.
Ce culte et ses dévotions furent révélés et finirent par agacer le clergé, qui envoya un ecclésiastique. Quelque temps après, un prêtre venu de la ville se rendit sur place et prêcha aux foules de s'abstenir de ces pratiques. Le prêtre construisit, non loin de la rive de l'étang, une église et y déposa des reliques. L'aubaine était trop belle pour récupérer quelques dévots. Il fallait malgré tout, pour convaincre et railler les plus fervents pratiquants, trouver quelques artifices des plus convaincants. Quoi de plus miraculeux qu'une épine de la couronne du Christ? L'affaire était dans le sac. On saurait maintenant d'où provenaient ces hurlements hivernaux et pourquoi le lac mugissait en hiver.
Cette église de Saint-Andéol disparut à ce jour. Créée par un évêque des Gabales et dédiée à Saint-Hilaire, aurait, selon les dires, permis d'éradiquer le pèlerinage païen qui se tenait en juillet sur les rives de ce lac.
Notons simplement que ce lac de Saint-Andéol regroupait tous les éléments de nature à susciter bon nombre d'histoires et de légendes. Une eau sombre, des bruits étranges, un culte païen et le dépôt d'objets votifs.
Si le temps nous l'eût permis, nous aurions pu vous parler, ou du moins vous lire beaucoup d'autres livres ayant trait à la Lozère. Du plus loufoque, Lozère Apocalypse, au plus dérangeant, camp d'internement de Réecross, où un millier d'étrangères et de françaises indésirables y séjournèrent. En attendant, nous vous remercions en espérant que ces ateliers, Je lis comme je te parle, soient reconduits l'année prochaine pour profiter à d'autres enfants. Encore une fois, merci.
Merci.
Quant à moi, je remercie les auditeurs ainsi que les enfants pour cette lecture à haute voix, lecture de textes compliqués qui demanda beaucoup d'efforts et d'applications, mais qui vous permirent, du moins je l'espère, de découvrir la Lozère sous ses aspects géographiques, historiques, légendaires et imaginaires. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous l'an prochain pour une deuxième saison des ateliers Je lis comme je te parle. Ciao et à bientôt.